L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. La famille, c'est souvent un endroit où il se passe énormément de tensions. C'est l'endroit qui vous protège, évidemment. C'est l'endroit qui vous définit, qui vous donne une identité d'une certaine mesure. Mais c'est aussi un endroit qui parfois vous blesse. C'est toujours un endroit un petit peu complexe. Alors ça veut dire quoi faire famille? Ça veut dire quoi fonder une famille? Ça veut dire quoi être le chef de la famille? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sophie Galabru, qui est docteur en philosophie. Son premier livre a reçu le prix lycéen du livre de philosophie. C'était un livre sur la colère. C'est, pour ceux qui se posent la question, effectivement la petite fille de Michel Galabru, qui est un acteur français extrêmement connu, sans doute l'un des plus doués de sa génération. Je vous laisse écouter cet épisode qui est vraiment extrêmement didactique. Vous verrez, Sophie, elle s'exprime particulièrement bien. C'est très clair, c'est très agréable. Sa voix est particulièrement agréable aussi. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sophie, comment tu te sens aujourd'hui?
Plutôt bien.
Plutôt bien, bon, ça tombe bien. On va parler de famille. Et peut-être que la première question que je me pose, c'est à la lecture de ton ouvrage, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire famille?
Ça veut dire réfléchir à la façon dont on veut créer des liens avec des gens qui nous ont déjà peut-être accueillis, mais aussi avec des êtres plus vulnérables que l'on veut accueillir, que ce soit par l'adoption ou par la procréation. Je vais même jusqu'à parler d'adoption d'animaux. Moi, je considère qu'une famille peut se faire avec des êtres sensibles comme les animaux. Parce qu'à partir du moment où on se sent responsable, on a charge d'âme et on doit donner du soin, de la protection, du soutien et apprendre aussi à décrypter la sensibilité d'un être, il y a famille pour moi.
Donc c'est pas nécessairement que les liens du sang en réalité.
Oui, c'est ce que je questionne dans le livre. Est-ce que la famille peut simplement tenir sur des liens objectifs et des liens génétiques, les liens du sang? Et je pense que non. Et c'est une chose dont on a l'expérience ou qu'on peut remarquer dans les témoignages des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont été adoptés et qui considèrent leurs parents d'adoption comme des parents tout court. On peut soi-même, avoir fréquenté des êtres qui ont pris soin de nous, qui ont été des témoins de notre vie si particulière et intime qu'on les considère comme des gens de notre famille. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti et je crois que c'est le critère de toute façon numéro un de la famille contemporaine. Le sentiment d'intimité, la qualité relationnelle, la confiance qu'on peut avoir dans les êtres garantissent un lien familial.
Et alors du coup, c'est quoi justement le rôle d'une famille? C'est ces liens qui sont sécurisants, c'est d'appartenir, ce que tu dis?
L'intimité relationnelle et en même temps la possibilité d'être libre au sein de son groupe. Je pense que ce sont les deux critères très importants et d'ailleurs dont parle déjà le sociologue Durkheim ou encore François de Singly. Ce sont deux critères, c'est-à-dire le partage d'intimité, ça peut être par la cohabitation, mais à vrai dire, on passe pas toute une vie avec ses parents et ses enfants, c'est qu'une tranche de vie, ça dure 15-20 ans en fin de compte, c'est pas grand-chose. Dans l'espace et le temps de toute une vie. Donc la cohabitation, mais c'est déjà quelque chose de non négligeable, parce que vivre dans le même espace, dans un même temps, presque au même rythme, alors qu'on est différent, c'est quelque chose qui demande une vigilance, une attention, un respect, une bienveillance particulière. On peut ne pas avoir tout ça, mais alors on risque d'heurter, de négliger, parfois même d'agresser ceux qui veulent vivre avec nous, ou ceux et celles à qui on impose de vivre avec soi, c'est-à-dire les enfants. Donc la cohabitation, c'est une chose, mais l'intimité se fait aussi par le partage d'activités communes. Et si on ne le peut pas, de conversation et de confidence. C'est-à-dire, est-ce que je peux être écoutée ? Est-ce que je peux être entendue dans ce que je ressens, dans les émotions que j'ai, les sentiments, les attentes ? Et même s'il n'y a pas d'accord ou d'alignement, est-ce qu'on peut en discuter, avoir même parfois des conversations critiques, sans que les uns et les autres se sentent heurtés dans leur ego et dans leur position hiérarchique ? C'est important, c'est ça qui crée des liens.
Ouais, clairement, clairement. Et c'est marrant parce que... Quand je lisais ton livre, je me disais, mais quand on imagine une famille, on imagine un peu, tu sais, la famille Kinder ou, tu sais, je sais pas, une marque de machine de lessive, tu vois, qui est très parfaite, avec les dents blanches, etc. Et en fait, ce que tu décris, c'est qu'il y a plein de réalités possibles d'une famille.
Bah oui, parce que la pub, c'est souvent la famille nucléaire. C'est-à-dire deux parents hétérosexuels, mariés, avec les enfants sous le même toit. Et la réalité, alors c'est vrai que ça a été un modèle qu'on a plébiscité, surtout au 19e, 20e siècle. Et bon, à partir des années 60-70, baisse des mariages, hausse des divorces, beaucoup plus déjà de couples concubins, de couples homo-parentaux aussi, de familles monoparentales, c'est-à-dire de personnes seules, des familles recomposées aussi en hausse. Alors ça, c'est vraiment la tendance actuelle, c'est l'explosion des familles recomposées. Et donc finalement, il y a énormément de visages possibles. Et puis en lisant de l'ethnologie, de l'anthropologie, je me suis rendu compte que non seulement en France et en Europe, on a beaucoup changé de modèle, mais actuellement dans le monde, les choses se font aussi très différemment.
Et d'ailleurs, tu compares... certaines coutumes, ou en tout cas certains autres pays, avec la France. Alors, j'ai plus les exemples en tête, mais de mémoire, tu montres que, par exemple, l'adoption, elle est pratiquée de manière différente dans certaines régions.
Oui, chez les Nuers, par exemple, c'est des peuples nilotes qui vivent près du Nil, ou quels sont les autres exemples que j'ai pu avoir En tout cas, chez eux, par exemple, on peut adopter des enfants qui ne sont pas de son sang, et on considère la filiation comme établie soit par un récit mythologique presque, soit par l'acte d'adoption, soit parfois par le sang, mais les pratiques et les considérations ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. On considère l'adoption comme un plan B quand on n'a pas pu procréer, qu'on est désespéré par cette stérilité. Alors que l'adoption, c'est un acte extrêmement fort, un acte, comment dire, qui nous élève à la parentalité, parce qu'on peut être géniteur et ne pas s'occuper de ses enfants, ne pas savoir les soigner, ne pas savoir les élever, les instruire, être proche d'eux, déserter son foyer et ses liens, et puis on peut, à l'inverse, ne pas en avoir de lien de sang et s'occuper à merveille, d'être qu'on n'a pas procréé. Donc... tout cela veut dire que la parentalité, en fait, c'est une mission sociale et politique, et que des gens exercent très bien, alors même qu'ils n'ont pas lien de sang, et que d'autres exercent très mal, et dont ils ne veulent pas d'ailleurs, mais la vie ou le conformisme les a conduits à avoir des enfants.
Est-ce que justement, ouais, c'est ça, je me disais, en fait, les enfants, c'est souvent... je me souviens avoir eu des discussions là-dessus avec des femmes particulièrement où je leur demandais pourquoi elles voulaient des enfants. Il y en a quelques-unes qui m'ont répondu que c'était une question complètement idiote. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une question importante. Pourquoi tu veux des enfants ?
Mais c'est une question gênante parce qu'en personne ne sait y répondre, moi, je crois. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas trop savoir y répondre parce que... peut-être que... Bon, j'exagère, mais la seule réponse peut-être possible, c'est de se dire j'ai envie de partager du bonheur avec d'autres êtres. Je suis convaincue, même si c'est peut-être une idée folle, de pouvoir donner du bonheur et de la vitalité à des gens, à des êtres à venir. Mais les raisons plus précises seraient peut-être douteuses. Et d'ailleurs, ces raisons précises existent et elles ne sont pas dites, elles sont taboues. Vouloir que son enfant nous sauve, soit un médicament, un thérapeute, un trophée, une béquille, ça c'est des raisons très précises qui existent, mais on ne va pas les dévoiler comme ça.
Ou alors qu'il fasse ce que nous on n'a pas pu faire. Tu sais, c'est toute l'explosion des fringues de mode pour les enfants, mais c'est aussi tous les parents qui poussent, qui adorent dire que leur enfant est un surdoué. Tu vois, c'est dire, tu vois, c'est vraiment les pousser là où toi-même t'as pas réussi, quelque part les pousser à faire ce que toi t'aurais voulu faire d'une certaine manière.
Bah oui, c'est-à-dire c'est l'idée que l'enfant est un petit bricoleur, réparateur de mes fêlures, de mes blessures, de mes désirs inachevés, parce que c'est clair qu'il y a des germes ou des possibilités qu'on a abandonnées en grandissant. C'est tout le principe du cheminement, c'est d'abandonner sur sa route des possibilités. Comme disait un philosophe que j'aime beaucoup, Bergson, la route devient de plus en plus jonchée de détritus, quoi, si je puis dire, de possibilités qu'on a jetées. Et on rêve parfois, inconsciemment, que notre enfant reprenne un de ces possibilités. Et ça arrive d'ailleurs très souvent, hein. Il y a quand même des phénomènes de reprise qui sont intéressantes, mais tout cela devrait se jouer de manière, à mon avis, inconsciente et pas sous la forme d'une injonction, parce que ça, c'est étouffant et irrespectueux d'imposer à son enfant d'être le support narcissique qui va nous relever, en fait, nous restaurer.
Mais d'ailleurs, ça se fait de manière un peu inconsciente, et tu parles beaucoup du mimétisme dans la famille. Alors, pour le coup, la famille de sang entre les parents et les enfants, mais parfois aussi les conflits qu'il peut y avoir entre frères et sœurs ou entre sœurs.
Ah ouais, et même le mimétisme, en fait, il a lieu déjà dans le couple. C'est-à-dire que par l'habitude de vivre